Bonsoir à toutes et à tous, c'est Cinéscopie sur RTF, votre magazine consacré au cinéma et à la musique de film, tous les lundis soirs à partir de 20h30. Une émission proposée et animée par Serge Friedkin, Laurent Craven et Chris Lucas. On est très heureux de vous retrouver pour une émission consacrée bien sûr au cinéma, mais aussi à l'actualité du Blu-ray, du DVD, on en parlera tout à l'heure. L'actualité du livre aussi, car ça y est, le livre consacré à Bernard Herrmann est sorti chez Actes Sud, je l'ai entre les mains. C'est Carole Beffa qui nous propose cette biographie de Bernard Herrmann. Alors, il existait déjà une biographie assez fournie, écrite par Stephen C. Smith aux États-Unis. Il y avait eu quand même, me semble-t-il, un livre en français consacré à Bernard Herrmann il y a quelques années. Et voilà, Carole Beffa, qui est musicologue et compositeur d'ailleurs lui aussi, a décidé, et pianiste, a décidé de consacrer un livre à ce compositeur que l'on connaît parce que, évidemment, il a écrit pour un très grand nombre de films aujourd'hui incontournables, comme Citizen Kane d'Orson Welles, et puis de nombreux films réalisés par Alfred Hitchcock, parmi lesquels La Mort aux Trousses, Psychose, Marnie, Sueur Froide, et quelques autres. Et donc, on a une biographie chez Actes Sud. Alors, j'ai lu cet ouvrage cette semaine. Il faut dire que c'est un ouvrage qui est quand même relativement court, puisqu'on est aux alentours de 150. Quand je regarde, hein, j'ai à 164 pages, 165 pages. C'est court, c'est un livre, c'est un petit format, mais alors justement, moi j'ai quand même un coup de gueule, mais un petit bémol tout de même, c'est le prix de ce livre, car on en a quand même pour 20 euros. Donc je trouve que c'est quand même assez excessif pour un livre dans un format quand même relativement petit, mais voilà. Alors, petit mais costaud, parce que chez Actes Sud, ils font quand même de la qualité, évidemment, et en plus, cet ouvrage est orné sur sa couverture d'une très belle photo de Bernard Herrmann en noir et blanc, un petit peu sépia. Vraiment une belle mise en page et un beau travail quand même de Carole Beffa pour découvrir ou redécouvrir ce compositeur. Dans l'actualité de la musique de film, également, nous déplorons la disparition d'un compositeur de musique de film britannique. Il s'agit de Laurie Johnson. C'est un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, il a écrit pour quelques films de cinéma, comme par exemple le mythique Docteur Folamour de Stanley Kubrick. Mais, à vrai dire, il est beaucoup plus connu pour ses travaux pour la télévision, puisqu'en effet, c'est lui qui a créé le célèbre générique de la série Chapeau melon et bottes de cuir, avec Patrick McNee, Diana Rigg, Honor Blackman et Purdy également. Voilà, et il a écrit également pour d'autres séries britanniques comme Les Professionnels dans les années 70. Voilà, c'était un très très grand compositeur. Il a également écrit pour les salles de concert. Hein. Il nous a quittés le 16 janvier dernier. Il avait, me semble-t-il, 95 ans. Il a une belle vie quand même, et voilà, c'est un compositeur qui a d'ailleurs succédé à Bernard Herrmann sur la musique d'un film de Larry Cohen, Le Monstre est vivant numéro 2. Parce qu'en fait, Larry Cohen avait fait appel à Bernard Herrmann pour écrire la partition de son film It's Alive, Le Monstre est vivant. Et puis, comme le film avait finalement plutôt bien marché, un deuxième épisode avait été mis en chantier, mais Bernard Herrmann n'avait pas été en mesure d'écrire la musique de la suite. Et c'est Laurie Johnson qui avait été recommandée par Bernard Herrmann lui-même. Donc Laurie Johnson qui avait signé la musique du deuxième épisode de ce film de Larry Cohen. Voilà, donc en tout cas, on rendra hommage bien sûr à Laurie Johnson dans notre émission en diffusant un extrait d'une de ses musiques de film. Et puis également, nous rendrons un hommage à Norman Jewison qui nous a quittés également. Norman Jewison, qui a réalisé d'excellents films. Moi, C'est vrai que j'aime beaucoup notamment l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen et Faye Dunaway. Donc, musique de Michel Legrand qu'on passera peut-être tout à l'heure dans cette émission. Voilà, donc bonsoir à tous et à tous. Une nouvelle fois, bienvenue sur RTF et bienvenue dans notre émission Cinéscopie consacrée au cinéma. Et je dis bienvenue à Laurent qui m'accompagne ce soir à la technique.
Bonsoir à tous, bonsoir Chris. Et donc oui, comme chaque lundi, on officie devant et derrière les manettes.
Exactement. Il est polyvalent cet homme. C'est incroyable.
Oh, bon, on essaye.
Quel bel homme. Non, si vous cherchez quelqu'un de bien, n'hésitez pas à nous téléphoner.
Un grand bonjour. RTF, hein. Un grand bonjour à Jack, mais bon, il doit être couché, je pense.
C'est ça. Bah, vous pouvez téléphoner au 05 55 50 09 09. N'hésitez pas si vous cherchez l'homme de votre vie. Il est là, il est en face de moi. Et vous ne serez pas déçus, vous allez voir. Sinon, c'est remboursé. Hein.
Oui, il a déjà son chéquier.
Ah bah oui, je pense bien. Ouais. Alors comment vas-tu?
Ma foi, ouais. Pas trop mal, hein, en pleine époque cinématographique, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de sorties. On essaye de vous faire profiter de nos impressions.
Tout à fait.
Il est vrai qu'on ne peut pas tout voir, hein, malheureusement, bien qu'on en voit quand même, hein, des films.
Ah oui, on en...
sur le grand et le petit écran.
Exactement, on peut dire ça.
On va quand même démarrer l'émission, hein, parce oui. Que bon, c'est vrai que les films, ça va être pour plus tard, dans quelques minutes, avec notre première rubrique dédiée à la vidéo. Hein, comme
tu aimes bien entretenir le suspense.
Oui. Donc avec notre sélection, comme chaque semaine. Mmh. Et ma foi, même si on est en début d'année où c'est un petit peu plus calme, il y a quand même pas mal de sorties de films, que ce soit classiques, ou nouveautés, films récents, contemporains. Voilà, on vous parlera de tout ça, et puis aussi peut-être ça et là quelques petits coffrets, même s'ils se font un petit peu plus rares, hein, après les fêtes, forcément, le gros est passé. Et puis bon, il va falloir attendre, je pense, le mois de juin, pour avoir vraiment une très très grosse sortie en termes de densité. Hein, c'est...
Ouais, là, il y a un petit ralentissement. Là, tout
voilà,
de suite,
mais ça va repartir, je sens. J'ai les petites antennes, il y a quelques petits...
Tu as des informateurs un peu partout.
Voilà. Dorio qui va certainement nous faire saliver. Et vous aussi peut-être, hein. c'est ce qu'on espère, parce que forcément le support physique est présent et il faut le défendre coûte que coûte.
Oui, absolument.
Parce que tout simplement, c'est l'avenir, quoi qu'on en dise.
Oui. Tiens, ça me fait penser, je vais juste un petit aparté, parce que ça me fait penser simplement, parce que il y a une série à la télé, parce que tu parlais du petit écran, il y a une série télé qui reprend le 10 février, je vous le dis parce que j'adore cette série. Elle s'appelle Blanca, c'est une série italienne, une série policière, et il se trouve que la musique de cette série est disponible au moins en vinyle, et c'est le groupe Calibro 35 qui est l'auteur de cette musique, qui est vraiment très très sympa, et on en reparlera, mais regardez cette série Blanca saison 2, c'est à partir du 10 février sur la 6. J'ai pas d'intérêt, hein, sur M6, franchement. Mais voilà, c'est une série qui fait un carton en Italie, franchement, et elle le mérite. Et c'est notamment dû à son actrice, je vous en reparlerai. Voilà, c'était juste une petite info comme ça en plus pour ouvrir cette émission. Mais je te laisse le micro, parce que là, du coup, je t'ai coupé dans ton élan, mon cher ami.
Eh bien... on va parler de musique aussi.
Oui.
Et dans quelques instants, on va écouter quelque chose d'assez nouveau, en tout cas, qu'on a découvert assez récemment, il faut dire. Un compositeur qui, ma foi, n'est pas très connu dans le monde de la musique de film, bien que... Ce musicien a déjà exercé avec des films peut-être un petit peu, je dirais, mineurs, c'est un compositeur qui, depuis toujours, hein, a été passionné de musique et profondément passionné aussi de cinéma. C'est Carlos José Alvarez. C'est un musicien, un compositeur américain, qui est né en Louisiane. Mais qui est un enfant d'une famille cubaine. Alors, ça, on va pas l'entendre dans
le registre,
dans la bande originale qu'on va écouter dans quelques instants, parce que c'est plutôt quand même avec une grosse inspiration, je dirais irlandaise, écossaise plutôt. il a été bercé quand même dans la musique classique, musique aussi symphonique. Il a commencé la musique à l'âge de 12 ans, et puis de fil en aiguille, l'école des arts du spectacle. Il a étudié en particulier les percussions symphoniques, le solfège, le piano aussi. Après, il a en fait étudié plus précisément les percussions, la composition au Florida State University. Il a obtenu bien sûr son diplôme. Il a reçu une bourse pour fréquenter le prestigieux Berklee College of Music, où il a obtenu un diplôme magna cum laude en musique de film. Et avant de bien sûr déménager et puis entamer une carrière hollywoodienne, et donc forcément il a été s'installer à Hollywood. Un petit peu bourlingué, étudié la direction d'orchestre à Athènes, en Grèce, sous la direction du maestro Michalis Economou, avec l'Orchestre symphonique d'Athènes, l'Orchestre philharmonique du Qatar, pardon. Ça en fait en fait un compositeur assez polyvalent. On va l'écouter, parce que bon, on va pas parler bien sûr de l'ensemble de sa vie, parce qu'elle est quand même relativement longue. On va l'écouter à travers un film qui s'intitule La dernière danse de Kirsty MacLeod, un film dramatique qui se passe au début de la Deuxième Guerre mondiale. Film dramatique sur aussi, la place des femmes au sein de la société écossaise à cette époque-là. C'est un petit peu d'actualité aussi, les violences qui sont faites aux femmes. Donc déjà dans ce film, le sujet central, parce qu'en toile de fond c'était la guerre, mais c'est plutôt le sujet de ce film. Très beau film en tout cas, très beau paysage, l'histoire et le scénario qui se tient, qui sont excessivement bien écrits, et donc très très bien habillé musicalement par Carlos José Alvarez. On va écouter un thème qui est relativement, qui fait une sorte de suite orchestrale. Alors c'est plutôt intimiste au départ, avec beaucoup de présence de cordes, hein. On pense un petit peu à Williams, parce que c'est quand même très violonneux, hein, vous pouvoir l'entendre. Et puis après il y a véritablement une montée en puissance de l'orchestre, gentiment, pour habiller en fait le thème central de ce film. Donc voilà, on va écouter cela. Ça dure à peu près 8 petites minutes. Donc on va pouvoir pleinement profiter partir dans l'ambiance et dans l'univers écossais. Bon, ça fait penser bien sûr aux grands classiques, hein. En particulier, on parlait, je crois, la semaine dernière de Rob Roy, de l'ami Carter Burwell. Cette musique, on va essayer de voir un petit peu. Alors c'est vrai que ça démontre aussi une chose, hein, c'est que avec cette partition là je pense qu'il est quand même assez armé pour rentrer et puis peut-être pour prendre une relève bien récompensé à travers le travail qu'il a pu faire. Alors c'est vrai que les films ne m'ont pas parlé de à première vue, parce que bon, c'est un peu le hasard, hein, dans le monde de la musique de film. Et souvent les compositeurs, c'est lorsqu'ils ont un film qui est un petit peu porteur, où en fait ils peuvent exceller à travers eh bien, la partition, la mélodie qu'il compose, eh bien, c'est la rencontre avec l'univers professionnel et c'est l'acceptation hein, à travers donc, ces musiciens de la cour des grands, si je puis dire. Hein, tous les grands compositeurs aujourd'hui sont passés un petit peu par ce chemin-là. Eh bien, je crois que Carlos José Alvarez a rempli son contrat et j'espère que eh bien, dans les projets futurs eh bien, on reparlera de lui à travers eh bien, ces de belles partitions. Donc, tout de suite, on va écouter donc, la dernière danse de Kirsty MacLeod. Le thème, ça s'appelle A New Life. Le titre original de ce film, c'est The Road Dance. Voilà, on écoute cela et on se retrouve juste après pour parler vidéo.
Rubrique vidéo, l'actualité du DVD Blu-ray, tous les lundis dans Cinéscopie. Qu'est-ce que l'on peut trouver dans nos rayons, mais pas seulement, aussi en import. Et je voudrais commencer cette rubrique vidéo par deux publications que l'on peut trouver chez nos amis anglo-saxons, mais que dont qu'on peut donc se procurer via Internet, bien sûr. Alors, c'est un éditeur, un label qui s'appelle Powerhouse et qui nous propose deux classiques du thriller australien, avec tout d'abord Patrick. Alors, Patrick, c'est un film qui avait obtenu le Grand Prix au Festival d'Avoriaz, à l'époque où le Festival du film fantastique avait lieu à Avoriaz. Maintenant, c'est Gérard Armé. Et Patrick, c'est un film de Richard Franklin qui suit l'histoire met au centre un homme doté de pouvoirs télékinésiques. Et c'était plutôt réussi. Et alors donc, le label Powerhouse nous propose trois versions du film. Sa version australienne, sa version américaine raccourcie et la version italienne alternative où l'on peut trouver la musique des Goblins au lieu de celle composée par Brian May à l'origine. Ce qui est intéressant, c'est que ce coffret est accompagné d'un livre de 80 pages et de nombreux bonus, un making-of, des interviews du réalisateur Richard Franklin notamment. Donc un beau coffret consacré à ce qui est devenu vraiment un classique du cinéma fantastique australien, Patrick. Toujours donc en Australie, un peu moins connu mais digne d'intérêt, un slasher, un film à la manière un peu d'Halloween. Ça s'appelle Snapshot et il a été exploité sous un autre titre d'ailleurs, The Day After Halloween, pour surfer sur le succès d'Halloween justement. Et bien lui aussi aura donc droit à sa version collector avec le film en 4K. Et puis, voilà, là aussi un livret de 80 pages et de nombreux bonus avec notamment des interviews du réalisateur Simon Windsor. Voilà, je vous recommande franchement ces deux films, Patrick et Snapshot, dans ces très très belles éditions. C'est chez Powerhouse et évidemment, là il va falloir aller sur Internet pour se procurer ces deux belles éditions. Alors, chez nous en France et dans les bacs, on trouve des choses intéressantes. Alors, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, je crois que c'est Laurent qui vous en a parlé. Mais ça, c'est bon, c'est pour le fun et puis bon, pour l'intérêt patrimonial, parce que le film n'est pas exceptionnel. Mais c'est un film de Max Pécasse, Je suis frigide. Pourquoi ? Point d'interrogation. Je ne sais pas, je crois que Laurent t'en a dit un petit mot. Un film qui est publié chez LCJ Éditions, réalisé en 1972 par Max Pécasse, qui est quand même un cinéaste, quand même, c'est pas un très grand cinéaste, il faut bien le dire. Et voilà, donc l'histoire d'une jeune femme, Doris, qui vit avec son père André, dans le sud de la France. Et un jour, eh bien, Doris est violée par Eric, un fils de famille. Afin d'éviter le scandale, la jeune femme est envoyée en pensionnat de jeune fille. Elle est alors initiée de force au plaisir saphique par sa camarade de chambre. Voilà un peu le pitch de ce film, Je suis frigide. Alors maintenant, un film d'horreur de Eric Falardeau, Thanatomorphose, réalisé en 2012. Après une folle nuit de sexe avec son partenaire du moment, la jeune et jolie Laura se réveille au petit matin avec d'étranges marques sur le corps. La jeune femme n'y prête pas vraiment attention, mais son état va toutefois très rapidement empirer. En effet, sa peau commence à se nécroser, ses ongles à tomber et tout son corps dégage une forte odeur de décomposition. Rien ne semble pouvoir enrayer ce phénomène répugnant et au fur et à mesure que ses chairs se putréfient, la raison de Laura va se mettre à vaciller, la plongeant dans une véritable folie meurtrière. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le body horror. C'est plutôt bien fait, franchement, et c'est ESC Édition qui vous propose ce film qui est actuellement disponible dans les bacs. Pour les tintinophiles, eh bien, deux films édités là aussi par LCJ Éditions. Tout d'abord, Tintin et le mystère de la Toison d'or, réalisé par Jean-Jacques Vierne en 1961. Avec, alors évidemment, Jean-Pierre Talbot dans le rôle de Tintin. Dans ce film, le capitaine Haddock hérite d'un bateau qui entraîne son nouveau propriétaire et ses compagnons de Turquie en Grèce à la découverte du mystère de la Toison d'or. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, dans cette édition Blu-ray de Tintin et le mystère de la Toison d'or, il y a une interview inédite de Jean-Pierre Talbot, donc l'interprète de Tintin. Et le deuxième volet, c'est Tintin et les oranges bleues, réalisé en 1964 par Philippe Condroyer. Dans ce film, à la suite d'un appel qu'il a lancé à la télévision sur le problème de la faim dans le monde, le professeur Tournesol reçoit d'un savant espagnol une mystérieuse orange bleue. Voilà, donc les tintinophiles auront plaisir à retrouver ces deux films que moi je trouve assez plaisants et j'ai toujours trouvé ces films finalement assez sympathiques. Quelques petites annonces. Ces films ne sont pas encore sortis, mais ils arrivent dans un mois. Tout d'abord, et je vous en avais déjà parlé, la série Gangs of London. J'avais vraiment adoré cette série. Elle revient dans une saison 2 et c'est l'atelier d'image qui nous proposera cette saison numéro 2 début mars. Et le réalisateur principal de la série, c'est Corinne Hardy. Alors Corinne Hardy, on s'en souvient parce que c'est le réalisateur de La Nonne. Bon, c'est pas un fait d'armes incroyable, mais par contre Gangs of London, c'est tout à fait remarquable, notamment la saison 1 qui était vraiment incroyable. Je vous conseille franchement de vous procurer Gangs of London. Une réédition également par ESC Éditions, toujours début mars, ce sera Mon voisin le tueur, avec Robert De Niro et Matthew Perry, voilà, donc qu'on va retrouver dans ce film de Jonathan Lynn. Donc c'est l'histoire d'un certain Nicolas Ozeransky qui croule sous les dettes, qui est marié à une femme acariâtre, et quand il découvre que son nouveau voisin n'est autre que Jimmy Tudeschi, dit Jimmy la Tulipe, un célèbre et dangereux tueur à gages, eh bien sa vie va devenir encore plus cauchemardesque. Aussi fasciné que terrorisé par son voisin, Ozeransky va être entraîné dans une aventure rocambolesque où les fusillades, évidemment, côtoieront les tranches de rire, parce que c'est tout de même une comédie. Mon voisin, le tueur, oui, c'est un film qui avait été réalisé il y a déjà pratiquement 24 ans, c'était en 2000. Et un film qui va plaire aussi à Laurent, parce que je sais qu'on l'a aimé ce film, c'est un film de 1990 qui sortira toujours chez ESC Éditions début mars, c'est Fenêtre sur Pacifique, le film de John Schlesinger. Je crois que tu avais beaucoup aimé ce film, Laurent.
Oui. Excellent film, excellent polar, où on y retrouve Matthew Modine et surtout Michael Keaton, extraordinaire.
Voilà, on n'en dit pas plus, c'est un très très bon thriller. On en reparlera de toute façon quand ça va sortir.
Dans un mois. Et aussi une magnifique musique d'Hans Zimmer.
Exactement. Ouais, Hans Zimmer, dont j'ai re-regardé ce week-end le concert Hans Zimmer à Prague, et ça m'a rappelé que c'était quand même vraiment formidable. Hein. C'était un très, très 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 beau spectacle avec une formation avec des musiciens vraiment incroyables. Voilà pour ma sélection du jour. Et mes petites annonces, voilà, pour s'allécher un petit peu, on a envie de savoir ce qui va se passer. Voilà. Donc, je te laisse le micro, Laurent. Que nous proposes-tu ?
Alors, y a des petites pépites, hein, ça est là. À commencer un film édité par nos amis de chez Spectra. Un petit Larsen, désolé.
D'où ça vient.
un petit coffret qui rend hommage à Stephen Chow. Et donc, dans ce coffret, il y a Flirting Scholar from Beijing with Love. Alors, les titres originaux, hein, pour ceux qui peut-être suivraient plus avec le titre original. Donc, je me suis un petit peu entraîné. Hein. Tang Pak Fudim Shouong et Kwok Cha Ling Ling Chat.
Bravo.
Voilà. Alors, c'est deux comédies où on retrouve. Donc Stephen Chow en acteur, hein, il est aussi réalisateur aux côtés de Lili Chou, deux films réalisés en 93 et en 94 respectivement. Donc le premier film, Flirting Scholar, qui en fait raconte l'histoire d'un maître époux de 8 femmes. Il est calligraphe et tombe amoureux d'une prostituée de luxe. Et le deuxième film, devenu boucher, l'ancien agent 007 doit reprendre du service pour retrouver le crâne très précieux d'un dinosaure. Donc, doté quand même d'un très gros casting, cette comédie délirante est devenue le plus gros succès d'ailleurs au box-office local de 93, mais reste peut-être un peu hermétique pour un public, je dirais, occidental. Mais c'est aussi, pour le deuxième film, une parodie aussi colorée que déchaînée, même si elle, on va dire, assez inégal hein, dans ces péripéties de l'univers de James Bond. Mais voilà, ça reste quand même original et c'est deux découvertes assez intéressantes de nos amis Spectrum Film. Et en sachant que c'est une édition qui permet, vu qu'il y a deux films, eh bien, d'avoir une jaquette du facing réversible.
Une jaquette réversible.
Voilà. Alors, on reste chez Spectrum Film, et là c'est une comédie dramatique de Fumihiko Sori avec Yosuke Kubozuka, Arata Ura et Sam Lee, un film de 2002, film japonais, ça s'appelle Ping Pong. Ça raconte l'histoire de deux amis d'enfance au caractère diamétralement opposé qui se retrouvent autour d'une activité commune. Et bien, vous aurez tous deviné, c'est peut-être pas très facile, le ping-pong.
Ah oui, c'est ça.
Et donc, cette adaptation, en prise de vue réelle, hein, du manga de Taiyo Matsumoto, qui repose sur une histoire d'amitié d'apparence classique, mais qui évite toute mièvrerie et qui développe en outre un raisonnement sur la notion de talent, tout en proposant des matchs particulièrement spectaculaires. C'est souvent drôle, rythmé, et ponctué de quelques jolis moments d'émotion. Donc là aussi, c'est nos amis Spectrum, et dans des éditions, bien sûr, toutes les deux limitées, comme à l'habitude. Dernier film de Woody Allen, avec Lou Delage, Melvi Popo, Nils Schneider, Coup de chance, film franco-américain, qui raconte l'histoire d'une femme épouse d'un homme très possessif qui succombe à un ancien amoureux d'adolescence retrouvé par hasard. C'est un vaudeville vaguement policier. Je pense que Woody Allen a excellé dans d'autres films bien meilleurs, en tout cas dans ce registre, et où les personnages semblent s'adresser au public pour lui transmettre un maximum d'informations. Donc l'habillage audiovisuel entre utilisation absurde des couleurs et accompagnement musical jazzy hors de propos participe, je dirais, peut-être à un embarras quand même assez général.
Ouais, donc
c'est vraiment un coup de chance, mais là pas de chance.
Ouais, ouais.
Et donc c'est vrai que dans notre sélection, on parle toujours de films assez intéressants, mais là pour le coup, c'est peut-être un film plutôt à éviter. En tout cas, à la chante dans un premier temps, si vous n'avez pas pu le voir.
C'est vraiment pour les fans hardcore de Woody Allen, hein, je pense, pour
oui,
compléter
pense,
sa collection.
Les inconditionnels, oui.
Ouais.
Donc voilà, donc c'est Metropolitan qui le propose donc à la vente, et donc vous serez prévenu. Donc voilà. Autre film paru exclusivement en DVD. Pour tous ceux que j'ai annoncés, c'était alors pour coup de chance, vous avez aussi le DVD et le Blu-ray. Et pour les autres de chez Spectrum, il n'y a que des éditions Blu-ray.
Ouais.
Et donc là, c'est une comédie dramatique de Camille Japy avec Ariane Ascaride, Bérénice Bejo, Thomas Simeka. Film de 2023 français, ça s'appelle Sous le tapis. C'est l'histoire d'une femme qui attend ses enfants pour fêter son anniversaire et décide subitement de leur cacher que leur père vient tout juste de mourir d'une crise cardiaque. C'est un sujet a priori étrange et inattendu, mais traité avec une infinie tendresse jusque dans sa résolution, ce qui fait que le spectateur, tout d'abord déstabilisé, à l'instar des personnages, se retrouve comme en décalage, mais suspendu à l'alchimie sans artifice qui se crée entre les comédiens. Donc c'est une belle, en tout cas, découverte que nous propose eh bien, ce film et l'éditeur Blackout. Mmh. Donc pour ce film qui s'intitule « Sous le tapis ». Voilà.
Et puis on aime bien Ariane Ascaride en plus.
Oui, oui,
c'est
oui.
Ce qu'on aime bien.
Oui, là, pour le coup, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Vous pouvez voir ce film sans problème. Allez, si on parlait un petit peu de films d'animation, avec ce film de José Miguel Ribeiro, c'est Nayola. C'est une vaste coproduction, hein, parce qu'il y a le Portugal, la Belgique, la France, les Pays-Bas, l'Angola aussi, qui raconte donc de 1995 à 2011 en Angola donc, les destins d'une femme en quête de son mari disparu au combat, d'une jeune rappeuse subversive et de sa grand-mère. Donc c'est des décors totalement envoûtants, animation hybride, rupture stylistique, hein, entre les archives, le noir et blanc, subtilement retouchées, les séquences oniriques en peinture animée, des tempos contemplatifs, des visions métaphoriques. Donc c'est un portrait cru et partiellement autobiographique de trois générations de femmes d'une même famille qui donne à affronter la réalité méconnue, voire occultée, d'un pays ravagé durant 27 ans par la guerre civile et à la liberté d'expression muselée et fait entendre une voix singulière dans le cinéma d'animation. On le doit à un petit éditeur qui s'intitule Urban Distribution, et donc c'est déjà paru en DVD exclusivement, malheureusement, parce que là, pour le coup, bien de la haute définition a été bienvenue, en tout cas. Quelques petites annonces. Hein, ouais. Alors, on va balayer un petit peu ce qui est à venir. Alors, je crois que c'est une réédition. Ce film de 1941 de Jean Grémillon, hein, qui fait partie, par contre, là, du patrimoine du cinéma français, avec le duo Glamour Michel Morgan et Jean Gabin, et un scénario notamment de Jacques Prévert, va apparaître le 20 février donc en Blu-ray et chez nos amis Carlotta. On espère en tout cas qu'il y aura une très très belle restauration pour ce film, parce qu'il y a un noir et blanc somptueux, enfin de mémoire en tout cas, et puis véritablement le jeu de ces deux acteurs qui crève l'écran, hein, qui annonce véritablement une carrière assez fulgurante, hein, parce que dès qu'on voit les premières répliques, on sent véritablement du charisme pour...
Je ne sais pas si tu as donné le titre du film.
Mais c'est Remorque.
C'est Remorque, je me disais.
Oui, c'est Remorque, Remorque. Ouais. Donc voilà, donc, ça sort plutôt sur la fin février. On reste sur la fin février, 21 février pour être plus précis, et là on change de registre avec un film d'horreur de 1972 de Wes Craven, La dernière maison sur la gauche, qui va paraître chez ESC Éditions dans une édition totalement limitée, culte, avec au programme trois Blu-ray et aussi un livre qui l'accompagne de 52 pages, une affiche, des photos, une dizaine, ainsi qu'une pléthore de bonus, hein, dont les versions alternatives, Krug and Company, donc autre titre du film, qui a été censuré, et VHS. Donc voilà, donc là, ça s'annonce relativement très très fort. Je pense que c'est vraiment une édition pour vraiment les fans, les cinéphiles. Ouais. Donc là, je pense qu'il va falloir casser un petit peu la tirelire.
Ouais, oui. C'est vrai que ESC, j'ai l'impression, spécialisés dans le cinéma trash, puisqu'ils ont publié il n'y a pas très longtemps Nécromantique. Et puis là, actuellement dans les bacs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on l'avait évoqué la semaine dernière, Blue Holocaust de Joe D'Amato, qui évoque également le thème de la nécrophilie.
Oui.
Avec dans, toujours des belles éditions, hein, puisqu'il y a un livret de Marc Toulec, je crois, et puis voilà, une restauration de l'image.
Un grand classique du western, et là, c'est nos amis de Sidonie, spécialistes du genre.
Ouais. Qui ont une collection de western impressionnante.
Tout à fait. Et là, ils ont décroché certainement les droits pour ce film de 1968 de Ted Post. Le thème est signé Dominique Frontière.
Je vois ce que c'est. Pendelé.
Voilà. Avec Clint Eastwood, entre autres. Ce film est vraiment magique. C'est Pendelé, haut et court. Très grand film. J'espère que Sidonie va rendre hommage à ce film et va faire une très très belle restauration. En tout cas, il prévoit un digibook limité pour ce film, avec bien sûr, comme à l'accoutumée, un peu comme l'a été Life Force, entre autres, hein, sur les dernières productions, avec le Blu-ray, le DVD, un livre de 60 pages, avec la version française, la version originale sous-titrée. Donc ça s'annonce.
Ça s'annonce intéressant.
Très intéressant, ouais.
J'espère que ce sera beaucoup plus facilement disponible que Life Force, dont on n'a pas vu la couleur. Alors d'ailleurs, Life Force va ressortir, mais dans une version sans livret, et apparemment sera beaucoup plus accessible, que ce soit en termes de prix, mais aussi en termes de disponibilité.
Oui, oui. Donc voilà.
Pendelé, haut et court, je serai au rendez-vous de pour ce western qui est effectivement une réussite.
Je crois que ça s'annonce début février pour ce film italien de 1963 de Francesco Rossi, avec Rod Steiger, qui est un des projets phares, hein, de l'éditeur Rimini Édition en ce début d'année. Et donc là aussi, un Mediabook limité est prévu, avec donc un Blu-ray, deux DVD, un livre d'une centaine de pages, enrichi d'entretiens avec des spécialistes, dont une des dernières interviews de l'immense journaliste de cinéma Michel Simon, avant sa disparition. Et donc, je n'ai pas dit le titre pour le coup, c'est Ma base sur la ville. Ouais. Ce film de 1963.
Eh bien, je ferai main basse sur cette édition, mon cher Laurent.
Et puis, on va en terminer. Ça, c'est que des annonces, mais vraiment, c'est ce qui déjà s'annonce très très fort. Là, pour le coup, le film. Alors là, par contre, on n'a pas véritablement de date. Hein. On parle de second trimestre 2024, pour un film de Jean-Jacques Haneau. La musique est signée James Horner.
Ouais, alors là, il y a une chance sur deux. Hein. Ce pourrait être une réédition du Nom de la Rose, par exemple.
Eh bien oui. Et là, c'est une édition collector, parce qu'en fait, il va y avoir donc une galette 4K, associé bien sûr à un Blu-ray, un DVD, tout ça remasterisé. Ça sera le premier titre de l'association Patrimoine TF1 Studio que 7 distribuera, et il sera suivi par 80 autres références de ce catalogue emblématique. Donc là, on ne sait pas les références, mais bon, ça s'annonce relativement fort, parce que là, ça commence très très fort, c'est le cas de le dire.
Avec le Nom de la Rose, oui.
Voilà, donc on l'attend aussi avec impatience. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour.
Un petit panorama.
Voilà, après il y a d'autres choses, mais bon, bien sûr, on en garde un petit peu pour la semaine prochaine. Voilà.
On va garder sous le pied, un petit peu sous le coude. Voilà. Écoute, merci Laurent pour cette sélection et pour ces annonces fort alléchantes, ma foi. Donc, on va se mettre sur les starting blocks pour pas mal de ces sorties à venir. On va retrouver la musique de film. Avant de parler des films qui sont sortis sur nos écrans, dont on va vous faire là une petite chronique tout à l'heure. Musique de film, qu'est-ce que on rend hommage, je crois, là tout de suite à Laurie Johnson.
Eh oui, à travers le jazz, d'ailleurs, on rencontre.
Pourquoi pas.
Donc on va écouter. Bien sûr, on ne peut pas faire l'impasse sur le thème de chapeau melon et bottes de cuir.
Oui, alors je crois que c'est le thème de la saison avec Joanna Lumley qui joue le rôle de Purdy.
Purdy.
Oui, c'est The New Avengers.
Et Gambit.
Ah oui, il y avait Gambit également. Ouais, finalement, c'était pas mal. En fait, ce qui pêchait un petit peu, je crois que c'est les scénarios. Ils avaient voulu faire des choses un petit peu plus dans l'air du temps, un petit peu plus espionnage, un peu plus réaliste. Et en fait, ça avait un petit peu perdu de son charme quand même.
Bon, mais ça est là quand même. Il y avait quelques
histoires. Mais il y avait de bons épisodes.
Oui, tout à fait. Donc, on va écouter cela, bien sûr. Mais avant toute chose, on va écouter un formidable... Un morceau de jazz à travers This Is Your Life, qui d'ailleurs ouvre ce CD consacré à Louis Johnson dans le cadre de la musique télévisuelle.
Oui, ça fait partie aussi d'un This Is Your Life. Je crois que c'est une série ou un show britannique, et donc c'est Laurie Johnson qui avait écrit le thème. Avec ces deux extraits, on va vraiment voir l'éclectisme du compositeur et son talent mélodique également.
Allez, on écoute cela et on se retrouve juste après pour la sélection des films de la semaine. Les films de la semaine, ce soir.
Un silence avec Daniel Auteuil, Nicky Larson, The Iron Claw avec Zac Efron et Stella, une vie allemande avec Paula Beer. Et puis voilà, on va vous donner nos impressions sur ces films. On commence rapidement par Nicky Larson. Nicky Larson, un animé adapté du célèbre manga et alors qui inaugure le chapitre final a priori dans les aventures de Nicky Larson. City Hunter, c'est le titre original. Donc cet aventurier, détective, obsédé sexuel aussi, au passage, et qui avait même été, qui a fait l'objet d'une adaptation, me semble-t-il, en France, par Philippe Lachaud, qui avait repris le personnage dans une version live. Donc là, on a un Nicky Larson, Angel Dust, c'est le sous-titre de ce film, qui en fait c'est le premier volet du chapitre final, voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc, moi je suis allé voir ça un petit peu avec une certaine envie parce que j'aime beaucoup les animés, et je me suis dit quand même au cinéma ça va être, ils vont nous proposer quelque chose quand même de plus ambitieux qu'à la télévision en termes d'animation en tout cas, et moi j'étais un peu déçu, c'est-à-dire que je trouve effectivement il y a toujours un beau travail sur le graphisme et les couleurs, mais j'ai trouvé que l'animation c'était un petit peu ça restait un peu basique, donc je suis un peu déçu de ce côté-là. Quant à l'histoire, elle n'est pas incroyable, il faut bien le dire. On en apprend plus sur les origines de Nicky Larson, certes, ça c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un crossover assez sympa avec les Cat Size. Moi je regardais les Cat Size quand j'étais ado également, et donc je trouve que c'est bien de faire intervenir les Cat Size. Également une apparition de Lupin 3, Lupin qu'on avait vu par exemple dans le château de Cagliostro de Hayao Miyazaki. Donc moi c'est un personnage que j'aime bien, il a eu une petite apparition dans le film, ça c'est plutôt bien aussi. Après je trouve que le côté comédie est un petit peu lourdingue, notamment le côté obsédé sexuel de Nicky Larson qui est bon quand même un peu appuyé, un peu vraiment beaucoup trop appuyé je trouve, et il n'y a pas beaucoup de distance, et voilà, bon ça reste quand même Nicky Larson on va dire en demi-teinte, c'est une petite déception tout de même, et j'espère qu'ils vont relever le niveau sur la deuxième partie. Voilà donc pour ce Nicky Larson. Et puis un film de Sean Durkin, c'est The Iron Claw avec Zac Efron, l'histoire vraie d'une famille de catcheurs. Et donc là c'est intéressant parce que Zac Efron s'est fait un corps, s'est bodybuildé en quelque sorte pour incarner ce personnage qui est l'un des quatre frères de la famille Von Erich, et une famille qui va trouver une certaine popularité sur le ring, puisque tous, y compris le père, sont des catcheurs. Voilà. Alors ça s'appelle The Iron Claw. Iron Claw, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la griffe de fer, la griffe d'acier, comme on veut. On pourrait traduire ça aussi par la poigne de fer. C'est une figure de catch que les Von Erich ont inventée. Mais cette poigne de fer, c'est aussi celle du père. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça aussi cette histoire familiale. C'est l'histoire d'une volonté de faire, c'est celle du père, qui est merveilleusement interprétée d'ailleurs par le comédien dont le nom m'échappe, enfin c'est un acteur qu'on a l'habitude de voir, mais qui est vraiment formidable ici. Et donc il mène ses enfants à la baguette, mais en même temps, et c'est là d'ailleurs où le film, je trouve, touche un peu ses limites. On pourrait penser effectivement qu'il y a une certaine subtilité dans le traitement des rapports familiaux, parce qu'on pourrait penser que ce père quelque part il a un côté antipathique, mais pas totalement. C'est-à-dire que effectivement la relation père-fils, elle n'est pas si conflictuelle qu'on pourrait le penser. Voilà, il y a un certain nombre d'événements tragiques qui se produisent au cours de cette histoire. Je ne vais pas vous les spoiler, mais à tel point d'ailleurs qu'on peut parler d'une malédiction de la famille Von Erich. D'ailleurs, eux-mêmes les fils von Erich vont sentent qu'il y a quelque chose, qu'il y a peut-être une malédiction qui les suit en réalité. Un peu comme on avait parlé par exemple de la malédiction pour la famille Kennedy, hein, parce qu'il y a beaucoup de membres du clan Kennedy qui sont morts, qui ont été assassinés. Là, effectivement, il y a quelque chose peut-être qui se joue, quelque chose d'irrationnel, mais il y a surtout évidemment cette envie du père de réussir à tout prix c'est une volonté inflexible qui va mener un certain nombre de personnages à leur perte en fait. Donc ça c'est assez intéressant, c'est une histoire totalement vraie. D'ailleurs à la fin du film, vous verrez au générique de fin, vous avez des photos qui montrent les véritables protagonistes de cette histoire. Et voilà, c'est un film assez prenant. J'ai trouvé que les acteurs étaient assez justes, mais il y a tout de même quelque chose qui m'a un peu gêné dans ce film. Je ne sais pas si les acteurs ont fait pousser leurs cheveux ou quoi, mais on a l'impression qu'ils ont une moumoute sur la tête. Alors ça, ce côté moumoute, ça m'a un petit peu gêné, j'avoue. Ça n'enlève rien d'ailleurs au talent des comédiens, franchement. Mais voilà, c'est un petit peu limite. Belle distribution, Zac Efron en tête de distribution, mais également Lily James, qui joue le rôle de sa fiancée, puis de sa femme dans le film, que je trouve... J'ai toujours aimé cette actrice Lily James, que j'avais découvert, je crois, c'est dans Cendrillon. Je crois qu'elle jouait le rôle de Cendrillon pour Kenneth Branagh. Belle photo également pour ce film américain, mais qui en fait est une coproduction, puisque la BBC est coproductrice du film et qui a comme pas mal d'acteurs anglais, britanniques dans ce film. C'est assez curieux. Voilà, donc un film qui ne manque pas d'intensité, qui est plutôt bien mis en scène, mais quelques bémols tout de même sur la relation père-fils. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus conflictuel en fait. J'ai trouvé que le film était un peu tiède de ce côté-là. C'est un peu curieux, alors qu'il commence le premier plan du film. D'ailleurs, d'une certaine façon, dit tout de la suite. Comme souvent, d'ailleurs, dans les introductions, quand tu as un film ou quand un roman commence à une bonne introduction, c'est qu'il dit déjà un peu en substance ce qui va se passer. Voilà. Et donc, le film est bien réalisé. Les scènes de catch, assez intéressante. Ça m'a fait un petit peu penser bien sûr au film The Wrestler avec Mickey Rourke, où là aussi on avait un personnage cassé par la vie et brisé aussi par son activité sur le ring. On retrouve un petit peu cette dimension dans le film, même si d'ailleurs dans le film avec Mickey Rourke, les combats de catch étaient un petit peu plus pas mieux chorégraphiés, c'est pas ça, mais on comprenait un petit peu plus la mise en place de ces combats, hein, voilà. Donc là c'est un petit peu moins le cas sur ce film, qui manque à mon avis paradoxalement d'intensité dans les scènes intimistes. Après chacun est libre de juger différemment, au contraire, hein, mais voilà. Donc en tout cas, en tout état de cause, c'est un film à voir. Franchement, je trouve que il y a vraiment un beau travail sur la photo. Les acteurs sont formidables. Et puis c'est une histoire vraie, voilà, une histoire incroyable là aussi, à découvrir. The Iron Claw. Et je crois que ça passe à Esther sur Limoges. Voilà, donc on va passer maintenant à un film qui est sorti, je crois, la semaine dernière. C'est Un silence, avec Daniel Auteuil, un film, me semble-t-il, réalisé par Joachim Lafosse, mon cher Laurent. Il est en train de monter le curseur de son micro. Oui, ça y est.
Oui, tout à fait, tout à fait. Joachim Lafosse, à qui l'on doit les Intranquilles, en 2021, et Joachim Lafosse qui revient en ce début d'année pour affirmer la capacité qu'a le cinéma à se passer de mots. Parce que c'est Joachim Lafosse, c'est un cinéaste assez taiseux d'ailleurs. Il montre avec Un silence la dangerosité des tabous au sein d'une grande maison bourgeoise dans laquelle tout le monde semble s'activer. Astrid, jouée par Emmanuel De Vos, qui maintient un équilibre fragile entre un fils turbulent et un mari, Daniel Auteuil, avocat au bord du gouffre. Et ce dernier, officiant dans une affaire de kidnapping, se voit être la cible d'un conflit médiatique et c'est à peu près tout ce qui nous est dit et ce que l'on peut dire, sans gâcher le film d'ailleurs. Pourtant, on comprend bien vite qu'un secret pèse lourdement sur la famille, prête à imploser. L'histoire, inspirée d'un fait divers qui a défrayé la chronique belge et qui donne l'occasion aux acteurs de prouver, encore une fois, leur justesse. Le spectateur est lui aussi pris en étau, cloisonné entre les murs de la villa encerclée par les journalistes. Le silence ne se caractérise pas ici par une absence, il est bien présent et assez claustrophobique d'ailleurs. Et l'intrigue nous perd pour mieux nous troubler d'ailleurs, dévoilant peu à peu un comportement ignoble, traité avec froideur et sans jugement. Cette expérience assez pénible qui dépeint avec élégance les travers d'une femme rongée par la honte de son impuissance et qui peine à garder la tête hors de l'eau dans le tumulte. Et c'est là où le film réussit toute sa, enfin si on peut dire sa splendeur, c'est surtout dans le jeu d'acteurs, parce qu'en fait les dialogues sont quand même assez peu présents, enfin il y en a mais voilà un minimum, et donc bien sûr le metteur en scène se repose essentiellement sur le jeu d'acteurs, sur les regards, d'où quand même la difficulté, je dirais, et je dirais la fragilité du jeu d'acteurs, et là pour le coup. Bien sûr, face à des acteurs tout à fait confirmés, eh bien c'est d'une fluidité extraordinaire. Et c'est vraiment, pour ma part, une grande réussite que ce film. Ça montre véritablement l'horreur, même si on ne la voit pas. C'est une horreur à chaque seconde. Ouais. Et c'est vrai que jusqu'au dénouement du film, eh bien on est peut-être pas manipulé, mais... entre autres par un des protagonistes, en tout cas on est berné comme l'ont très certainement été eh bien, les membres de la famille et aussi les forces de l'ordre.
Daniel Auteuil finalement qui retrouve un rôle un peu trouble comme l'avait été celui de Roman dans le film, ouais. L'adversaire en fait,
oui.
On est un peu dans un registre alors effectivement là on peut pas trop dire, mais enfin quoi que depuis la sortie du film quand même je pense que le thème
Peut-être que par contre dans l'adversaire il y avait peut-être pas cette ce côté un petit peu manipulateur comme
Jean-Claude Roman était quand même manipulateur puisqu'il a caché pendant des années à sa famille qu'en fait
jusqu'au bout on voit véritablement
surtout que Daniel Auteuil dans ce film là l'incidence c'est un avocat,
oui
donc
il a une grande maîtrise, mais c'est vrai qu'on voit tout son savoir, je dirais, professionnel, enfin en tout cas le personnage. Véritablement c'est un film à voir parce que tout simplement dans l'actualité qui nous intéresse, qui nous berce quand même au quotidien, c'est vraiment là en tout cas un film d'une grande réussite, en tout cas bien écrit, bien filmé, bien joué. C'est vraiment un film qui a peut-être pas fait beaucoup parler de lui, par le sujet, ça vaut vraiment le détour, un film qui vaut le coup d'être vu.
L'actrice qui joue aux côtés de Daniel Auteuil, c'est Emmanuelle
De Vos,
c'est ça, oui. Bon, on conseille déjà ce soir deux films, Un silence et puis The Iron Claw, dans un genre différent, mais... Il y a quand même de l'intensité, je reviens à mon histoire d'Iron Claw, je disais, dans les scènes familiales, il n'y a pas suffisamment d'intensité. Bon, ça monte quand même crescendo, faut bien le dire quand même, donc jusqu'à une fin assez intense, mais bon, c'est un film à voir aussi.
Autre film, allemand de Kilian Riedhoff. C'est Stella, une vie allemande
avec Paul Haber, formidable comédienne,
Janis Nivener et Katja Riemann, qui raconte l'histoire du personnage de Stella Goldschlag, et qui, en fait, par l'intermédiaire de Paula Bière, qui essaie de s'inscrire, je dirais, dans la lignée des grandes héroïnes complexes de Fassbinder. Et donc, le rôle de Stella, c'est une ville allemande que le réalisateur allemand Kilian Ridhoff a offert à Paula Bière, est l'un de ceux, je pense, qui marque une carrière, un véritable cadeau, je dirais, à condition d'être à la hauteur. C'est ce que l'actrice est d'ailleurs, sur l'ensemble du film, dans un registre assez proche d'ailleurs de celui de Caris Van Houten dans le Black Book de Paul Verhoeven.
Oui.
Et Stella, qui n'est pas un personnage imaginaire, c'est une chanteuse de jazz qui a été aussi bien une victime qu'une coupable, même si l'histoire a principalement retenu le deuxième aspect, et de par la monstruosité des conséquences de ses actes durant la Seconde Guerre mondiale à Berlin. Et celle qui avait notamment le surnom de Poison Blond, au sein de la communauté juive à laquelle elle appartenait, avait pour principal objectif de survivre, et elle a accepté les pires vilainies pour y parvenir. Et d'ailleurs, un personnage fascinant et ambigu, une fille comme les autres, aussi bien qu'une femme fatale, dont le film évoque à grande vitesse la destinée avec d'importantes ellipses à la clé. Et le rythme du film est vraiment trépidant, et le côté spectaculaire, de parfois confus, de l'entreprise, qui desservent peut-être quelque peu l'intérêt pour le film, même s'il donne envie d'en savoir bien plus sur cette anti-héroïne. Et donc, les admirateurs de Paula Bière, je fais partie.
On avait beaucoup aimé dans France et l'œuvre sans auteur.
Voilà, ne doivent pas vraiment rater le film, parce que elle est vraiment magnifique dans ce film.
Oui.
Elle est presque sans cesse à l'écran. Et je dirais que, alors, est-ce qu'il y a un côté un petit peu partial ? Je ne sais pas. Mais elle est vraiment prodigieuse.
Mais elle a beaucoup de charisme.
Et donc, à cela, eh bien, le film est extrêmement bien habillé. Déjà par la reconstitution de l'époque. Vraiment, c'est vraiment magnifique. On a des plans qui sont extraordinaires de reconstitution. Donc, rien que pour cela. Et puis, alors, surtout, la première partie, qui peut-être un petit peu plus anecdotique, parce qu'à l'origine, elle était chanteuse de jazz, mais franchement, ça m'a rappelé un petit peu Swing Kids, qui se passe à peu près à la même période.
Tout à fait.
Donc voilà. Donc franchement, c'est un film qui fait à peu près 2 heures. Honnêtement, il n'y a vraiment pas de temps mort. Alors, c'est plutôt un film dramatique, je mets peut-être une petite alerte, parce que pour les gens un petit peu sensibles, voilà, faire attention quand même, parce que forcément, on parle quand même de choses assez monstrueuses. Et puis aussi, ça reprend une célèbre chanson de Jean-Jacques Goldman, à la Lundstedt.
Ouais, voilà.
Qu'est-ce qu'on aurait fait Voilà, c'est parce que le jugement est facile, mais bon, après, voilà. Donc, c'est un film qui questionne, tout en étant aussi culturel, parce que je ne connaissais pas du tout la vie de Stella Goldschlag, et puis en plus, ce côté anti-héroïne, parce que bon, souvent, c'est dans ce genre de film, c'est pour parler vraiment d'action héroïque, et là, pour le coup, c'est pas tout à fait le cas. Et franchement, c'est une belle approche, un bel angle que s'est donné Kilian Ridhoff, alors bien sûr accompagné par un superbe casting, mais franchement, s'il y a un film à voir en ce moment, c'est bien ce Stella, une vie allemande.
Eh bien, tu nous as vraiment donné envie de découvrir ce film, Laurent, merci. Et d'ailleurs, ça fait penser que, évidemment, le cinéma se penche sur ces temps-ci, sur ce passé douloureux, puisque très prochainement sortira le film La Zone d'intérêt, oui, de Jonathan Lassiter. Bah,
La semaine prochaine,
on en reparlera. Et donc, on ira découvrir ce Stella, une vie allemande, avec cette actrice Paula Bière, effectivement, qu'on aime beaucoup. Y a un côté, elle a un côté un peu Romy Schneider dans l'intensité de sa présence à l'écran, je trouve. Il y a quelque chose. Voilà. D'ailleurs, je me demande si elle n'avait pas joué le rôle d'ailleurs de Romy dans un film, il me semble.
Peut-être. Bon, ouais. Mais bon, c'est vrai que le film France, elle nous avait quand même bien marqué.
Tout à fait. Et moi, personnellement, j'adore l'œuvre sans auteur que je vous conseille, et là aussi, qui se penche sur, en partie sur ce qui s'est passé sur la, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour d'horizon des films dont nous vous souhaitions vous parler ce soir. Nicky Larson, bon, voilà, c'est vraiment pour les fans hardcore, Nicky Larson, le... L'animé consacré à ce célèbre, ce personnage iconique de la culture geek japonaise. Et puis Iron Claw pour le catch, mais pas seulement, une histoire vraie assez incroyable. Et puis bien sûr, Un silence de Joachim Lafosse avec Daniel Auteuil, impérial, sur un sujet là aussi difficile. Et le conseil de Laurent pour ce soir, bien sûr, Stella, une vie allemande. Retour un petit peu sur la musique de film, peut-être, maintenant
Eh bien, oui. Ouais. Tu parlais, en début d'émission, de ce fameux ouvrage concernant Bernard Herrmann.
Oui, le film, alors, le livre, pardon, écrit par Carole Beffa et publié chez Actes Sud, tout à fait. Il s'appelle Bernard Herrmann, tout simplement.
Eh bien, en son temps, Sony Classique, alors musicalement, je parle, avait rendu hommage au maître, incontesté, entre autres, d'Alfred Hitchcock. Et donc, à travers un chef d'orchestre qui n'est autre que Esa-Pekka Salonen, qui a enregistré les grandes musiques de Bernard Herrmann sur un album qui s'intitule The Film Score. Et donc, il a, bien sûr, réenregistré ses très belle partition.
Avec, je crois, le Los Angeles Philharmonic.
C'est ça, tout à fait. Et donc, pour le coup, on y retrouve vraiment des grands classiques. Alors, pas tous, parce que forcément... Mais je crois qu'il y avait eu un deuxième volume, me semble-t-il, de mémoire.
C'est possible.
Et donc, dans le registre très classique, parce que là, la qualité d'enregistrement est au top du top.
Ah oui, puis là, il s'est réapproprié vraiment ses partitions, Esa-Pekka Salonen, d'une façon très personnelle, et c'est assez brillant.
Oui. Alors donc, on y retrouve L'homme qui en savait trop, Psychose, Sueur froide, Fahrenheit 451, Taxi Driver, et puis, on en oublie un, parce qu'en fait, c'est celui qu'on va écouter. On est en 1964, et là, on retrouve un couple d'enfer, c'est le cas de le dire, Sean Connery et Tippi Hedren. Tippi Hedren, qui a eu forte affaire quand même avec Hitchcock.
Ça a été une relation difficile, entre
très,
les deux.
Très, très houleuse.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais.
Et donc, là, c'était pour le film Pas de printemps pour Marnie, pardon. Ouais. On va écouter le thème, un des thèmes principaux. Ça dure une sorte de suite, cinq petites minutes, où on retrouve vraiment le très beau thème de Marnie. Je vous invite bien sûr à découvrir le film. C'est vrai que le petit écran nous le propose assez régulièrement, mais
oui, c'est vraiment à redécouvrir. C'est un film mal aimé dans la filmo de Hitchcock, mais en fait je le trouve assez intéressant en réalité.
C'est vrai. Donc vraiment le nous on les a tous vus, mais bon, c'est je dirais c'est désincontournable dans le registre du maître du suspense. Quand on regarde certains polars, c'est ni plus ni moins que pas un plagiat, mais en tout cas on pioche allègrement dans les artifices de tout ce qu'a pu inventer Hitchcock en son temps.
Alors, Hitchcock, Herrmann, deux génies réunis, deux personnalités d'ailleurs caractérielles, on va dire,
extrêmement charismatiques, d'un ego surdimensionné.
On peut dire ça.
Et donc, la plupart des actrices le savent. Alors, c'est vrai que Hitchcock n'aurait jamais été Hitchcock sans sa femme aussi, qui était une personne majeure dans sa carrière, parce qu'elle coécrivait quand même une grande partie de ses scénarios. C'est vraiment une osmose totale, que ce soit certainement dans la vie privée, mais aussi professionnelle, indispensable. Donc, on écoute cela. Et on se retrouve juste après pour parler des sorties de la semaine.
Eh oui.
Tout de suite, donc, Bernard Herrmann pour la musique de Pas de printemps pour Marnie d'Alfred Hitchcock.
la musique de Bernard Herrmann pour ce film Pas de printemps pour Marnie, réalisé par Hitchcock. Alors là, j'ai entre les mains le livre de Carole Beffa consacré à Bernard Herrmann, et je vous en lis un petit extrait. C'est sur ce film que les dissensions entre Hitchcock et Herrmann commencent à se faire sentir. Et Carole Beffa écrit que il est d'ailleurs étonnant que cela n'ait pas eu lieu plus tôt, étant donné les égos affirmés des deux hommes. Alors ces dissensions s'amorcent dès le lancement de la production, quand Herrmann critique le choix fait par Hitchcock de reprendre pour le rôle principal Tippi Hedren, dont le réalisateur s'était amouraché, oui, puisqu'ils avaient fait les oiseaux. Hein. Et le studio Universal, lui, qui assurait la distribution du film, le studio ne veut pas de Bernard Herrmann pour la musique, parce que, voilà, le studio juge son caractère détestable, ça c'est vrai, et sa musique démodée. Voilà. Mais Hitchcock, qui soutient quand même son compositeur, à sa sortie, bon, le film est très mal accueilli par le public, par la critique d'ailleurs. Le scénario est jugé artificiel, le jeu de Tippi Hedren peu convaincant. Voilà. Donc, tout ça va contribuer petit à petit à déliter un petit peu cette relation entre Hitchcock et Bernard Herrmann. Donc, il faut lire ce livre hein, de Carole Beffa sur Herrmann, parce qu'on apprend plein de trucs, justement, sur ce travail entre Hitchcock et Herrmann ouais, sur ces films. Moi, personnellement, j'adore le thème d'amour, ce thème d'un lyrisme incroyable, assez torturé aussi en même temps. C'est deux facettes de la personnalité de Bernard Herrmann, qui a souvent écrit des thèmes romantiques vraiment sublimes. Je pense aussi, par exemple, à Sueur froide, Vertigo, et puis un peu plus tard pour Brian De Palma sur le film Obsession. Et d'ailleurs, Herrmann avouera à l'actrice principale d'Obsession que c'est elle qui lui a donné l'inspiration pour écrire la musique. Et cette actrice principale, on s'en souvient, c'est la sublime Geneviève Bujold. Alors moi, ça ne m'étonne pas, parce que moi, j'en étais amoureux de Geneviève Bujold à l'époque. Hein. Voilà. Donc, Herrmann, c'était quand même un séducteur, hein, quand même. Hein. Il avait un côté fleur bleue, il faut bien le dire. À côté de son côté assez irascible aussi. Hein, voilà. Voilà. Très très bon bouquin sur Herrmann pour redécouvrir ce compositeur, et ça vous donnera l'envie, comme on vient de le faire, de réécouter ses partitions vraiment sublimes. Eh bien, nous allons maintenant, mon cher Laurent, parler des films qui seront prochainement à l'affiche dans nos salles de cinéma.
Et oui, et elles sont nombreuses. Hein. C'est vrai que bon, c'est une moyenne d'une quinzaine de films. Ça, on a un petit peu l'habitude. Mmh. Et donc, on va faire un petit tour d'horizon. Alors, je m'en excuse d'emblée parce qu'il y a certains films où on n'a pas forcément d'informations hein, sur le nombre de films, c'est un petit peu normal. Et donc, forcément, on en a parlé il y a quelques instants avec Stella, Une vie allemande. C'est un autre film qui aborde cette période assez trouble. Peut-être un film... Qui achève peut-être la transformation du film de Shoah. Donc c'est ce film de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt, qui a presque eu d'ailleurs la Palme d'Or à Cannes. Et donc on le découvrira dès mercredi en salle. Autre film, A Man, de Kei Ishikawa, un film asiatique occupe je dirais la première ligne du cinéma japonais. C'est une nouvelle étoile, le quadragénaire Kei Ishikawa, qui a été multiprimé d'ailleurs au dernier Japan Academy Prize pour ce captivant film qui débute comme un tendre récit sentimental avant de virer sur un vertigineux thriller psychologique. On n'en dit pas plus. Ça sera certainement un film qui fera partie de notre sélection dans les semaines à venir. Autre film, Amélia's Children, de Gabriel Abrantes, Là, pour le
c'est un film fantastique portugais qui vient d'ailleurs d'obtenir, me semble-t-il, le prix spécial du jury au festival de Gérardmer. Là, puisque ce week-end, c'était la clôture du festival du film fantastique à Gérardmer. Le grand prix, d'ailleurs, je peux déjà vous le dire, a été donné à un film coréen de Corée du Sud qui s'appelle Sleep, l'histoire d'un homme qui est victime de crise de somnambulisme et qui, au moment de ces crises de somnambulisme, devient particulièrement dangereux jusqu'à menacer de mort sa propre famille.
Là, pour le coup, pour Amelia's Children, eh bien, c'est l'histoire d'un homme d'une trentaine d'années qui est orphelin depuis sa naissance et qui découvre sur le tard qu'il a un frère et une mère, et il part à leur rencontre dans leur grande demeure au fond des bois où semble se dérouler eh bien, des choses pas très catholiques.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et ben, c'est un film, je pense, dont on vous reparlera, parce que ça m'intrigue beaucoup, ce film.
Autre film de Brigitte Sy, Le bonheur est pour demain. Un film avec Laetitia Casta, Damien Bonnard, Béatrice Dalle. Laetitia Casta qui fête ses 25 ans de cinéma en tenant le rôle central du troisième long métrage de Brigitte Sy, et donc la femme d'un petit voyou dont le quotidien morne va soudain s'éclairer grâce à un coup de foudre. Voilà. Autre film, alors là par contre on n'a pas grand chose, c'est le film Argile de Matthew Vaughn.
Oui, c'est une comédie d'espionnage et d'aventure avec Henry Cavill et Dua Lipa d'ailleurs dans le film. Et c'est un film d'action qui m'a l'air assez survolté. Et Argyle, je pense on prononce plutôt Argyle en fait, c'est l'histoire d'une romancière qui écrit des romans d'espionnage, et en fait il se trouve que la fiction qu'elle écrit en tout cas rejoint la réalité. Elle va donc se retrouver impliquée elle-même dans une intrigue d'espionnage assez loufoque. Et je pense qu'il y a une attente sur ce film, hein, parce que Matthew Vaughn, on aime bien ce réalisateur. Il a fait par le passé des quelques films intéressants comme Stardust par exemple.
Autre film, là par contre c'est un documentaire de Gilles Perret, La ferme des Bertrands. C'est un documentaire assez intimiste qui permet de brosser un captivant portrait d'une famille agricole perdurant depuis plusieurs générations en Haute-Savoie. C'est un film un petit peu d'actualité, somme toute. Autre film, La forêt, c'est la classe, de Daniel Schlosser. Donc là par contre je n'ai pas grand chose sur ce film. Autre sortie, Léo, de Jim Cabobianco et Pierre-Luc Grandjean. Ça s'appelle Léo, je sais plus si...
Oui, mais là j'ai pas d'infos sur ce film non plus. Je regarde dans des petites notes.
Désespérément.
Une info sur le film, mais on vous en dira peut-être plus ça.
La fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. 2023 a été peuplée de tels sommets d'animation. C'est un film d'animation. De Mars Express à Mon ami robot, en passant par Linda veut du poulet, que la barre de nos attentes a encore monté d'un cran, forcément. Mais ce Léo n'a pas à rougir de la comparaison. C'est un charme fou et une inventivité permanente qui domine ce portrait en stop motion et 2D de Léonard de Vinci.
Moi ça m'intéresse, a priori. Je suis très fan de Léonard de Vinci, donc j'irai voir ça.
Les lueurs d'Aden de Arm Gamal. C'est un cinéma d'origine yéménite qui continue d'être entravé par des décennies d'instabilité politique, et pourtant quelques-uns osent aujourd'hui s'y aventurer, et Arm Gamal en fait partie, déjà en 2018 avec 10 Days Before the Wedding, qui s'attaquait aux conséquences de la guerre sur un couple désirant se marier, et cette fois-ci dans Les Lueurs d'Aden, un couple déjà marié ne pouvant assumer un quatrième enfant désire un avortement. Et donc, peut-être avec toutes les difficultés qu'on peut présager donc, dans ces pays ultra rigoristes. Mambar Pierrette, autre film de Rosine Mbakam. On cherche à chaque fois hein, parce que c'est vraiment des films qui sont très intéressants. Et Rosine Mbakam qui débarque sur les écrans mercredi avec deux films d'un coup, hein, deux autofictions qui documentent finement le Cameroun d'aujourd'hui. Alors c'est Mambar Pierrette et Les prières de Delphine. Donc en fait, ça fait quand même un diptyque de 3 heures hein, en tout. Hein. Ouais. Avec Mambar Pierrette, c'est l'histoire d'une couturière de Douala qui se fait voler sa machine. Et Les prières de Delphine, c'est un documentaire qui, suivant l'arrivée en Belgique d'une jeune Camerounaise, en quête d'un avenir. Voilà. Donc, autre film, un film de Pierre Godot. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de film de Pierre Godot. Il était souvent producteur. Là, ça s'appelle Sous le vent des marquises. Je crois à la distribution au casting, il y a François Damien. Il y a aussi Salomé Dewels, Roman Kolinka. Ça raconte l'histoire d'un acteur en plein doute qui s'apprête à jouer Jacques Brel dans un film, mais essaie en même temps de renouer avec sa fille qu'il a longtemps délaissée. Et donc Pierre Godot, à qui on doit Raoul Taburin, livre un récit intimiste qui fait écho au rapport qu'il a pu avoir avec son propre père, Philippe, producteur sur Le Huitième Jour, et cinéaste, Le Dernier pour la route. Voilà, donc film assez très intimiste et qui vaut certainement le détour. Je crois que c'est peut-être un des meilleurs rôles de François Damien. Mmh. They Shot the Piano Player de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Donc ça sort aussi
film d'animation. Qui a l'air très intéressant d'ailleurs, c'est l'histoire d'un musicien brésilien, je sais plus si c'est Milton Nascimento, je sais plus. Mais ça m'a l'air assez passionnant ce film.
Oui, ça se passe en 76 à Buenos Aires, et donc le pianiste brésilien Francisco Tenorio Jr., précurseur de la bossa nova, sort acheter un sandwich. Et puis il disparaît, se localise sans laisser de traces, 6 jours avant le coup d'état militaire argentin. Est-ce une coïncidence? Et 30 ans plus tard, Fernando Trueba découvre ce virtuose oublié sur un CD de musique brésilienne.
Voilà. Ah ouais.
Et là, véritablement, un très très beau film d'animation.
Ouais, celui-là, je pense que ça mérite le détour.
Ouais. Ouais. Je pense que voilà, c'est vraiment à voir. Et je crois qu'on a fait le tour, voilà.
C'est pas mal, parce qu'il y a quand même, tu vois, moi j'ai retenu Amelia's Children, They Shot the Piano Player, et puis La Zone d'Intérêt, voilà. Pour moi, je pense que c'est film de Jonathan Glazer. Je vous avais dit La Citeur, non mais c'est Jonathan Glazer, oui, en effet.
Voilà, eh bien, c'en est tout.
Il y a plein de choses.
Oui.
Des choses qui sortent.
Pour tous les goûts. Alors, on n'aura peut-être pas toutes les sorties sur la région, mais voilà, on essaiera de vous en faire profiter au maximum.
Exactement. Eh bien, je crois qu'on peut écouter peut-être une petite musique de film, là, pour terminer notre émission. Qu'allons-nous écouter peut-être?
Un grand classique en hommage
peut-être à un réalisateur qui nous a quitté il y a quelques jours, c'est Norman Jewison. Jewison qu'on connaît puisqu'il avait fait aussi, notamment par exemple Rollerball avec James Caan, et puis plus récemment il avait fait aussi le film Hurricane, consacré au boxeur Hurricane Carter, interprété par Denzel Washington, qui avait été incarcéré pour un crime qu'il n'avait pas commis, c'est une histoire vraie. Et puis, peut-être le film le plus connu de Norman Jewison, dont on va écouter la musique, c'est l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen.
Oui, et puis la musique est signée Michel Legrand, incontournable. Et puis le duo aussi, hein, ce que Steve McQueen, Faye Dunaway, voilà.
L'utilisation aussi du split screen, qui était assez novatrice à l'époque, quand même. C'est, on l'avait pas beaucoup utilisé. Et Norman Jewison, c'est l'un des premiers à le faire de façon virtuose dans ce film.
Un excellent polar. Alors, bien sûr, matinée de comédie aussi. C'est vrai que dans le film, je crois que ça fait partie de ces films où, je crois, l'actrice a une pléiade de tenues. Je crois qu'il n'y a pas un plan où, en fait, la tenue est similaire. Voilà.
Ça, c'est vraiment un plaisir des yeux pour, à tous les niveaux, ce film. Oui. À l'époque, je crois qu'on avait dit que c'était le baiser de cinéma le plus long jamais enregistré.
Ouais. Et puis, en parlant de tenue, c'est vrai qu'on fait référence. Peut-être que d'ailleurs, le cinéaste Wong Kar-wai dans In the Mood for Love s'est peut-être inspiré de ce film-là, parce que aussi dans son film, l'héroïne. En fait, il n'y a pas un plan où en fait elle a la même tenue. Donc, c'est vraiment la garde-robe pendant pas loin de 1h40. Et là, pour le film, c'est pareil. Hein, dans pratiquement 2 heures de film, eh bien, c'est vraiment le défilé de grande couture, de haute couture.
C'est un film qui nous charme, et avec des comédiens aussi qui sont charmeurs. Un Steve McQueen magnétique. Et puis, alors, la mise en scène et le montage de certaines séquences, de pas mal de séquences du film d'ailleurs, a été calé sur la musique de Michel Legrand. C'est-à-dire que c'est Michel Legrand qui avait suggéré d'ailleurs à la production, à Norman Jewison, écoute, je vais te faire cette musique-là, et je pense que le mieux, parce qu'ils avaient, comme tourné les scènes, ils ne savaient pas trop comment les monter, et ils ont monté musicalement, finalement. Ils ont monté avec la musique de Legrand.
Et donc, on va écouter forcément la chanson originale, interprétée par Noël Harrison, et donc présente sur un disque extrêmement rare aujourd'hui, parce que c'est les éditions Odéon qui l'a proposé dans sa version intégrale, inédite à l'époque. Et donc, on écoute cela. Grande production des artistes associés. On écoute ça, c'est assez court, hein, 2 minutes 20, mais quelle prouesse musicale et quelle interprétation. Tout de suite, donc, l'affaire Thomas Crown.
Like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clockless hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
La musique du film L'affaire Thomas Crown, en hommage à Norman Jewison qui nous a quittés il y a quelques jours. Musique composée par Michel Legrand et avec cette chanson Les Moulins de mon cœur que vous avez bien sûr reconnu. Et bien notre émission touche à sa fin. Cinéscopie, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de l'actualité des films, du DVD, du Blu-ray. Vous parler de l'actualité musicale également. Et pour l'heure, eh bien, on vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de RTF et dans nos salles obscures. Il y a plein de bons films qui sortent ce mercredi, donc n'hésitez pas.
Pléthore, il y en a pour tous les goûts, donc très éclectique cette programmation de mercredi. Donc voilà. Et puis des films qui sont toujours à l'affiche et qui restent intéressants, dont entre autres, on vous a parlé de quelques films cette semaine, mais là aussi la semaine dernière.
Oui, c'est ça. Et puis, n'oubliez pas, moi, je vous le rappelle, jeudi 8 février, au Lido, il y aura la projection à 20h du classique du western spaghetti, Le Grand Silence, avec Jean-Louis Trintignant dans le rôle principal. À ses côtés, il y avait également Frank Wolf et Klaus Kinski dans ce film réalisé par Sergio Corbucci, une musique de Ennio Morricone. Voilà, un western absolument incroyable à découvrir le jeudi 8 février.
Bon, on vous le rappellera.
Mais on vous le redira.
Ah, oui.
Enfin, nous, on y sera. Donc, on vous fera des dédicaces, il n'y a pas de problème. En attendant, excellente fin de soirée à vous tous, à vous toutes. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Salut, bonne toile, bonne semaine. À lundi prochain.